Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Celui qui a ficelé Eric, c'est Gilles. Et l'autre, c'est Frédéric, Eric dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Frédéric dit. Je me venge. Gilles lui dit. Les rendez-vous, c'était nous. Nous étions cassés. Mais ta Carole, si tu ne l'avais pas tuée, nous l'aurions fait. Eric voit le corps de Carole qui gît à terre. Il demande. Qu'allez-vous faire? Frédéric lui dit. Tu verras bien. Gilles va vers Frédéric. Frédéric tient bien la fille par derrière. Gilles, d'un geste, lui déchire sa robe.
Non! Non! Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez?
Il ne dit rien.
Elle essaie de se défendre. En se tortillant, mais n'y arrive pas.
Gilles lui déchire son soutien-gorge, son slip. Ça lui fait mal. Elle se sent perdue. Gilles la tient par les pieds. Frédéric parle bas. Et cette tortille, elle a peur. Non. Eric essaie de se défaire de ses liens, mais c'est trop serré, il n'y arrive pas. Il dépose la fille à terre. Gilles lui dit, vas-y Frédéric. Frédéric lui attache les mains avec une corde, puis lui écarte les jambes, elle fait.
Non, je vous en supplie. Non. Non.
Eric lui dit, salaud, salaud, laissez-la. Frédéric lui dit. Et toi, t'as eu pitié de moi? Elle essaye de se dégager. Elle se tortille, mais n'y arrive pas. Puis, elle ne peut rien faire. Gilles la tient bien. Les jambes écartées, Freddy lui dit.
ce qu'il a fait avec Carole, il l'a fait avec moi. J'ai été sa chose pendant des années et des années. Elle ne sait plus. Eric est peut-être un criminel. Frédéric se déshabille. Gilles l'a bien tenue. Puis, il se penche sur elle.
Non ! Non !
Elle crie, elle hurle. Elle est vierge. Il y a du sang de partout. Dans cette histoire. Du sang, du sang. Eric crie, salaud, salaud. Vous me le payerez, je le jure.
C'est ça que tu veux, hein, salope. Tu veux voir comment c'est, hein? Salope. C'est ça que tu veux, hein?
Ridan.
C'est ça que tu veux, hein? Tiens. Tiens, tiens.
Puis, une fois que Frédéric est joui, il se retire. Elle est épuisée. Déshonorée. Elle croit vivre un cauchemar, un crime, des crimes, elle ne sait plus. Elle est comme folle. Elle reste sans bouger. Puis Gilles dit. À moi. Eric crie. Non. Gilles rit. Il lui dit. Je vais sortir mon dard, moi aussi. Il sort de sa poche, de sa veste, un couteau. Non. Crie Eric. Elle ne réagit plus. Et Gilles lui donne un coup de couteau dans le bas-ventre. Le sang gicle. Elle crie, elle hurle. Les couteaux entrent dans sa chair. 10 fois. Eric est en sueur. Non, non, crie Eric. Frédéric regarde tout ça avec le sourire. Puis Gilles donne un dernier coup de couteau. Elle ne bouge plus. Il se relève. Le sang giclé sur lui. Il est essoufflé mais heureux, dit à Frédéric. Tu es vengé. Frédéric lui dit, non, pas encore. Et il va au fond de la pièce. Sort 2 bidons de 5 litres en PVC blanc. Eric le regarde venir et lui dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il pose les récipients près de lui. Eric demande, qu'est-ce que c'est?
Frédéric lui dit, tu vas le savoir bientôt. Gilles s'approche et dit, tu vas avoir une belle fin. Comme tu vas voir. Frédéric rit et dit, si je vais penser, c'est couper les parties. Puis je me suis dit que ça risquerait peut-être de te faire jouir. Alors voilà, il ouvre un bidon. C'est de la javel. Et le jette sur le corps. Le contenu. Et sur le corps, elle est partie. Ça le brûle. Ça le pique. Non, arrête, arrête. Frédéric dit, attends. Puis, prend l'autre bidon. L'ouvre. Et en vitesse, le jette. C'est de l'ammoniaque. Eric a des difficultés à respirer. Il étouffe, il suffoque. Et il est attaché. Et les deux amis, heureux, mais aussi étouffent, vite, ils quittent la pièce. Le pauvre Eric étouffé. Refermez la porte derrière eux. Entendez Eric étouffé dans son coin. Toujours toussé. Même l'allée à l'odeur suffocante. Les deux amis étouffent aussi. J'ai dit, allons vite, nous changer. Ils montent aux étages. Là, ils ouvrent une porte d'un autre appartement. Il y a une pièce. Dans cette pièce, il y a deux sacs de voyage. Ils l'ouvrent. Se déshabillent. En vitesse. Se mettent nus. Les deux garçons sortent du sac de voyage, une grande serviette, chacun une grande serviette et un savon. Puis, ils courent à la salle d'eau. Frédéric dit, quel saloperie ! Eh, ils prennent une bonne douche. Puis s'essuie. Avec leur serviette éponge, ils sortent de la pièce, sort le dos. Et s'habillent avec du linge propre qu'ils ont dans leur sac. Frédéric demande, ça va durer combien de temps, la menaque et la javel ensemble? J'ai lui dit, je ne sais pas, laissons-le la nuit pour qu'il agonise bien. Avec les deux cadavres de ses femmes. Puis, une fois habillé, il se dépêche de sortir de l'appartement et de sortir de l'immeuble. Or, il court dans la rue Saint-Jacques. Elle, un taxi.
Ils entrent dedans et donnent l'adresse. Gilles fait « Ouf ! Voilà, quel cirque !» Oui, tu dis « Bientôt, je serai le maître, le maître !» Gilles le regarde d'un air malin. Le taxi s'est arrêté devant l'immeuble de Gilles. Frédéric paye. Il descend du taxi et vous rentrez dans l'immeuble de Gilles. Prennent l'ascenseur. Gilles lui dit « Je suis seul. C'est le jour de congé de la femme de ménage. Pas de domestique, rien. » Sortent de l'ascenseur. Et vont rentrer dans l'appartement. Pendant ce temps, le pauvre Eric suffoque, tousse, étouffe, perd des forces. Les yeux lui piquent, la peau lui brûle, la bouche est en feu, il a des difficultés à respirer. Il perd de plus en plus des forces. Il étouffe. Voix blanc. Gilles et Frédéric, une fois arrivés chez Gilles, décident d'aller se coucher. Il est très tard, 2h du matin. Il en faut du temps pour faire tout ça. Ils couchent tous les deux dans le même lit. Une fois que la lumière est éteinte, Gilles prend le bras de Frédéric et lui donne un baiser sur la joue. Frédéric ne bouge pas. Gilles le blottit contre lui. Le lendemain matin, il est réveillé par Gilles, qui le secoue en lui disant « Lève-toi, il est l'heure. » Frédéric demande « Il est quelle heure ? 8h. Tu sais que l'on a à faire. Et il faut le faire assez tôt. » Alors les deux garçons se lèvent. Gilles dit à Frédéric d'aller à la salle de bain. Pendant ce temps, moi je vais préparer le petit déjeuner.
Une demi-heure plus tard, ils sortent de leurs immeubles. Ils ont un sac de voyage que porte Gilles. Ils vont à pied où ils doivent aller. Arrivés dans la rue de cette nuit, qui est encore plus triste le jour que la nuit, elle est presque déserte parce que la plupart des immeubles sont démolis ou vides. Ou vont être démolis. Ils entrent dans l'immeuble.
Ils entrent dans l'immeuble. Toujours aussi lugubre. Monte à l'étage. Au premier, entre dans l'appartement où s'est passé les choses de cette nuit. L'odeur de l'ammoniac est encore dans la pièce, mais moins forte. À terre se trouvent les deux femmes ensanglantées. Elles ressemblent à des statues. La lumière du jour montre leur peau d'une blancheur de marbre. Attaché au poteau, le corps avachi, la tête contre sa poitrine, lui aussi le corps blanc. Gilles va vers le cadavre d'Éric. Le regarde bien et dit « Il est bien mort. » Frédéric demande « A-t-il beaucoup souffert ?» Gilles lui dit « Je pense, et longtemps. Allez, au travail. » Gilles ouvre son sac et en sort deux bidons d'essence. Et il asperge les cadavres. Puis, il en met sur le sol. Puis, ouvre la porte de l'appartement. Ils sortent et Gilles jette une allumette. Les deux garçons filent. Et sortent de l'immeuble. Premier étage d'une fenêtre, on voit déjà de la fumée et des flammes. Les vieux garçons courent, 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 ils filent, filent. Il retourne chez Gilles. Et ne bouge pas de la journée. En fin de journée, Frédéric va sonner chez ses grands-parents. Frédéric demande. Ils sont là? Oui, monsieur, au salon. Il y va.
Papa, la porte.
Entrez!
Et la grand-mère. Il entre.
Bonjour.
Il va vers eux.
Dans des fauteuils. Le grand-père lui demande, où étais-tu?
Chez Gilles. On a révisé.
La grand-mère lui dit, faut pas prendre ici pour un hôtel. Déjà, ton frère n'est pas rentré. Tu sais où il est?
Grand-père demande, tu sais où il est?
Non.
Le lendemain, Eric n'est pas revenu. Le grand-père s'inquiète. La grand-mère dit, pourvu qu'il ne soit pas arrivé quelque chose ou qu'il n'ait pas fait une bêtise.
Gilles retrouve Frédéric à la sortie du lycée.
Gilles dit, tout va bien, j'ai lu les nouvelles. La maison était brûlée complètement. Et puisqu'elle devait être démolie, on a laissé faire le feu. Les cadavres, rien. Il ne reste plus rien.
Deux jours plus tard, le grand-père reçoit un appel téléphonique dans son bureau.
Il a décroché.
Allô, oui.
Je suis bien chez Monsieur Borch?
Oui, c'est moi.
Je suis le domestique de Madame Carole Borch, votre belle-fille. Cela fait 3 jours qu'elle est absente. Et... le bébé a disparu lui aussi. Avez-vous des nouvelles?
Auguste dit, non, rien. Je ne savais pas qu'elle avait disparu. Si j'ai des nouvelles, je vous remercie. Je vous préviendrai.
Merci, monsieur.
Et il raccroche. Il sort de son bureau. Pour aller au salon rejoindre sa femme.
Entrez.
Il entre. Iva Varel est assise dans un fauteuil.
Et lui dit, Carole a disparu avec le bébé. Je suis sûr qu'elle est partie avec Eric. Tu sais qu'ils étaient en liaison.
Elle lui dit, qu'ils disparaissent, cela nous arrange. Mais cette Carole, partir avec un gamin...
Le soir, pendant le repas, le grand-père confirme le départ de Carole et de son bébé.
Il leur dit, Eric a dû partir avec eux.
et les jours passent. On n'entend plus parler de ces trois-là. Pour la famille, ils sont partis ensemble. Les jours passent. Un jour, les parents de Florence reçoivent une lettre. Qui leur dit que leur fille a reçu la foi et rêve de vie immortelle par l'ADN. Elle est partie dans une communauté bio et ne reviendra plus. Mais l'on promet à la famille que son ADN sera conservé à jamais, etc. Les jours passent. Les grandes vacances arrivent. Et la famille va, comme toutes les années, dans leur château de Touraine. Frédéric demande à son grand-père d'y emmener son ami Gilles. Le grand-père lui dit
« Oui, cette année, nous ne sommes pas nombreux. À part nous, ton frère parti, ta tante disparue, ton oncle à l'étranger à la recherche d'un nouveau talent. »
Frédéric prévient Gilles, qui prévient sa mère, qui elle va partir à Acapulco. C'est beau pour sa peau. Gilles n'a pas compris pourquoi c'était beau pour sa peau. Les valises faites, ils partent tous dans la même voiture, bien entendu parce qu'ils ne sont pas trop nombreux. Arrivé au château, le grand-père dit à Frédéric
« Tu ne vas pas à la tour, ta chambre sera au château. »
La grand-mère le regarde, le grand-père haut ses épaules. Frédéric aura sa chambre au même étage que ses grands-parents, mais au fond du couloir et à côté de Gilles. Les vacances se passent bien. Tennis.
Vas-y, tu en as plus ?
Pêche pour le grand-père, bateau, promenade, cheval. On se lève à 8 heures et petit déjeuner sur la terrasse. Tout est bien. Il fait beau, chaud. La grand-mère laisse tranquille la famille. Elle invite ses amis à prendre le thé, à faire de la marche, à parler, parler. Tout va très bien. Un matin, pendant le petit déjeuner, Amélie dit
« Vous savez qu'il y a dans la grange, en haut, des raisins de Corinthe que j'ai mis séchés. Faudrait aller les chercher. »
Frédéric dit « J'irai les chercher, grand-mère. Grand-père va m'aider. » Et l'après-midi, après le petit déjeuner, grand-père et Frédéric entrent dans la grange. P.
père dit « Je prends l'échelle. » Et pour aller en haut.
Frédéric lui dit « Je monte, prends les raisins. Toi, tu montes et reste sur l'échelle. Je le ferai passer. Prends un panier. »
Le grand-père va prendre un panier en osier. Frédéric monte à l'échelle. Le grand-père est derrière lui avec le panier. Frédéric arrive en haut. Le grand-père reste sur l'échelle. Frédéric lui dit « Grand-père, fais un tour. »
Le grand-père lui demande « Pourquoi ?»«
Tu vas voir. »
Et dès demain, il secoue l'échelle. Le grand-père panique et se maintient à l'échelle.
« Mais qu'est-ce que tu fais ?»«
Je fais tomber les fruits mûrs. »
Il secoue, secoue, secoue.
Le grand-père a le vertige. Il a des difficultés à rester en équilibre.
Non, arrête, arrête.
Frédéric rit et d'un coup brusque, on gueule et le grand-père aussi.
Le pépé ne bouge plus.
Sort de sa cachette Gilles. Il a une pierre. Il donne des coups sur la tête et dit « Voilà, c'est fait. Je vais jeter la pierre à la rivière. Tu peux crier. »
Gilles part avec la pierre.
Frédéric se met à crier « Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! » Il crie pendant 5 minutes « Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! » Enfin, un domestique qui a entendu entre dans la grange.
Frédéric dit « L'échelle est tombée sur mon grand-père! »
Il est tombé là. Vite, il faut aller chercher du secours.
Le domestique regarde le corps ensanglanté du grand-père. Il est dégoûté. Et il court au château.
Monte en vitesse au salon.
Il attend bien.
Domestique dit « Madame, il est arrivé un malheur. Votre mari est tombé d'une échelle. Il faut appeler le médecin. »
Elle est surprise et dit « Quoi? Où est-il ?»«
Dans la grange, madame. » Elle fait « J'y vais. »
Elle court à la grange.
Et là, dans la grange, elle trouve à terre son mari, se penche et voit qu'il est mort. Grand-mère !
Elle lève les yeux et voit Frédéric qui lui dit
« Grand-père a voulu monter. Je lui ai dit non et l'échelle est tombée. Je suis en haut, je ne sais que faire. »
Il pleure, crie, sans réfléchir et lui tend l'échelle. Il descend. Une fois en bas, il lui demande « Il est mort ?»
Elle ne dit rien. Elle a trop de peine, la pauvre grand-mère.
Frédéric la prend dans ses bras pour l'emmener au château.
Il l'emmène à sa chambre.
Allonge-toi, grand-mère. Il a fait allonger.
Puis,
Il sort de la chambre pour aller au salon téléphoner au médecin.
Une heure plus tard, le médecin arrive. Il constate le décès. La grand-mère est dans sa chambre, pleure son mari. Elle l'aimait beaucoup. Et c'était la seule personne au monde qu'elle aimait. La grand-mère pleure seule dans sa chambre. Pendant ce temps, le grand-père est déposé dans sa chambre à lui. On lui met des vêtements propres et on le prépare. Le curé vient. C'est un grand homme chauve. Il voit la grand-mère désespérée. Il décide de s'occuper de tout. L'enterrement a lieu. La grand-mère y assiste. Après l'église est menée au cimetière du village. Deux jours plus tard, la grand-mère décide, c'est de rentrer à Paris. Les jours passent, Paris l'été, s'occuper comment ? Eh bien, lorsqu'on a une grand-mère qui est en deuil et reste chez elle, et rester pour aller, on ne sait où aller dans ce Paris de vacances. Et que faire? Eh bien, lorsqu'on est deux amis, que l'on reste ensemble, on fait ce que l'on aime faire, c'est-à-dire des choses qui apportent le frisson. Comme de voler des voitures, faire des courses folles, entrer dans des maisons vides, de leurs propriétaires en vacances, de les squatter une nuit, de courir les filles pour rire, parce qu'on est beau gosse et que l'on sait que l'on a du succès, en profiter de les séduire et de les violer gentiment. Voilà les vacances bien remplies. Nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.